Villiers de l'Isle-Adam, La machine à gloire, SGDG. À Monsieur Stéphane Mallarmé. Quel chuchotement de toutes parts, quelle animation, mêlée d'une sorte de contrainte sur les visages. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une nouvelle sans pareille dans les années récentes de l'humanité. Il s'agit de la prodigieuse invention du baron Botton, de l'ingénieur Babilius Botton. La postérité se signera devant ce nom, déjà illustre de l'autre côté des mers, comme au nom du docteur Grave et de quelques autres inventeurs, véritables apôtres de l'utile. Qu'on en juge si nous exagérons le tribut d'admiration, de stupeur et de gratitude qui lui est dû. Le lendemain de sa machine, c'est la gloire. Elle produit de la gloire comme un rosier des roses. L'appareil de l'éminent physicien fabrique la gloire. Elle en fournit, elle en fait naître d'une façon organique et inévitable. Elle vous en ouvre, elle vous en couvre, n'en voulut-on pas avoir. L'on veut s'enfuir et cela vous poursuit. Bref, la machine Botton est spécialement destinée à satisfaire les personnes de l'un ou l'autre sexe, dites auteurs dramatiques, qui, privées à leur naissance, par une fatalité inconcevable, de cette faculté, désormais insignifiante que les derniers littérateurs s'obstinent encore à flétrir au nom du génie, sont néanmoins jalouses de s'offrir comme espèce les Myrtes d'un Shakespeare, les Acordes d'un Scribe, les Palmes d'un Goethe et les Lauriers d'un Molière. Quel homme ce Botton, jugez-en par l'analyse, par la froide analyse de son procédé au double point de vue abstrait et concret. Trois questions se dressent a priori. Premièrement, qu'est-ce que la gloire ? Deuxièmement, entre une machine, moyen physique, et gloire, but intellectuel, peut-il être déterminé un point commun, formant leur unité? Troisièmement, quel est ce moyen terme? Ces questions résolues, nous passerons à la description du mécanisme sublime qui les enveloppe d'une solution définitive. Commençons. Premièrement, qu'est-ce que la gloire? Si vous adressez pareille question à l'un de ces plaisantins faisant la parade sur quelques tréteaux de journal et versé dans l'art de tourner en dérision les traditions les plus sacrées, sans doute il vous répondra quelque chose comme ceci. « Oh, une machine à gloire, dites-vous. » En fait, il y a bien une machine à vapeur, et la gloire elle-même est-elle autre chose qu'une vapeur légère, qu'une sorte de fumée, qu'une... Naturellement, vous tournerez le dos à ce misérable Jeannin, dont les paroles ne sont qu'un bruit de la langue contre la voûte palatale. Alors adressez-vous à un poète, et voici à peu près l'élocution qui s'échappera de son noble gosier. La gloire est le resplendissement d'un nom dans la mémoire des hommes. Et pour se rendre compte de la nature et de la gloire littéraire, il faut prendre un exemple. Ainsi, nous supposerons que 200 auditeurs sont assemblés dans une salle. Si vous prononcez par hasard devant eux le nom de Scribe, prenons celui-là, l'impression électrisante que leur causera ce nom peut d'avance être traduite par la série d'exclamations suivantes. Car tout le monde actuel connaît son scribe. Oh, cerveau compliqué, à génie séduisant, fécond dramaturge. Ah oui, l'auteur de L'honneur et l'argent. Il a fait sourire nos pères. Scribe. Pouf. Oh, pouf. Poésie, oh non. Mais, sachant tourner le couplet, profond sous son aspect riant, voilà qui laisserait dire une plume autorisée, celle-là. Grand homme, il a gagné son pesant d'or. Et rompu aux folies du théâtre, etc., etc. Bien. Si vous prononcez ensuite le nom de l'un de ses confrères, de Milton, par exemple, il y a lieu d'espérer que, premièrement, sur les 200 personnes, 198 n'auront certes jamais parcouru ni même feuilleté cet écrivain, et deuxièmement, que le grand architecte de l'univers peut seul savoir de quelle façon les deux autres s'imagineront l'avoir lu, puisque, selon nous, il n'y a pas sur le globe terrestre des terraqués plus d'un cent d'individus par siècle, et encore capables de faire quoi que ce soit, voire des étiquettes de poids moutarde. Cependant, au nom de Milton, il s'éveillera dans l'entendement des auditeurs, à la minute même, l'inévitable arrière-pensée d'une œuvre beaucoup moins intéressante au point de vue positif que celle de Scribe. Mais cette réserve obscure sera néanmoins telle que, tout en accordant plus d'estime pratique à Scribe, l'idée de tout parallèle entre Milton et ce dernier semblera d'instinct, et malgré tout, comme l'idée d'un parallèle entre un sceptre et une paire de pantoufles. Quelque pauvre qu'ait été Milton, quelque argent qu'ait gagné Scribe, quelque inconnu que soit longtemps demeuré Milton, quoique universellement notoire que soit déjà Scribe, en un mot, l'impression que laisse les vers même inconnus de Milton était passé dans le nom même de l'auteur. Ce sera ici pour les auditeurs comme s'ils avaient lu Milton. En effet, la littérature proprement dite, n'existant pas plus que l'espace pur, ce que l'on se rappelle d'un grand poète, c'est l'impression dite de sublimité qui nous a laissé par et à travers son œuvre, ou plutôt que l'œuvre elle-même. Et cette impression, sous le voile de langage humain, a pénétré les traductions les plus vulgaires. Et lorsque ce phénomène est formellement constaté à propos d'une œuvre, le résultat de la constatation s'appelle la gloire. Voilà ce qu'en résumé répondra notre poète. Nous pouvons l'affirmer d'avance, même au tiers état, ayant interrogé des gens qui se sont mis dans la poésie. Eh bien, nous n'hésiterons pas à répondre, nous, et pour conclure, que cette phraséologie, où perce une vanité monstrueuse, est aussi vide que le genre de gloire qui le préconise. L'impression, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sommes-nous des dupes? Il s'agit d'examiner avec une simplicité sincère et par nous-mêmes ce qu'est la gloire. Nous voulons faire l'essai loyal de la gloire, celle dont on vient de nous parler. Personne parmi les gens honorables et vraiment sérieux ne se soucierait de l'acquérir, ni même de la supporter. Lui offrit-on d'être rétribué pour cela? Nous l'espérons, du moins pour la société moderne. Nous vivons dans un siècle de progrès où, pour employer précisément l'expression d'un poète, le grand Boileau, un chat est un chat. En conséquence, et fort de l'expérience universelle du théâtre moderne, nous prétendons, nous, que la gloire se traduit par des signes et des manifestations sensibles pour tout le monde, et non pas par des discours creux, plus ou moins solennellement prononcés. Nous sommes de ceux qui n'oublient jamais que tonneau vide résonne toujours mieux que tonneau plein. Bref, nous constatons et affirmons, nous, que plus une œuvre dramatique secoue la torpeur, publique, provoque l'enthousiasme, enlève d'applaudissements et fait du bruit autour d'elle, plus les lauriers et les myrtes l'environnent, plus elle fait répondre de larmes et pousser des éclats de rire, plus elle exerce, pour ainsi dire de force, une action sur la foule, plus elle s'impose enfin, plus elle réunit paroles, cela, même les symptômes ordinaires du chef-d'œuvre, et plus elle mérite par conséquent la gloire. Nier cela serait nier l'évidence. Il ne s'agit pas ici d'ergoter, mais de se baser sur des faits et des choses stables. Nous en appelons à la conscience du public, lequel, Dieu merci, ne se mêle plus de mots ni de phrases. Et nous sommes sûrs qu'il est ici de notre avis. Cela posé, y a-t-il un accord possible entre les deux termes, en apparence incompatibles, de ce problème de prime abord insoluble? Une pure machine proposée comme moyen d'atteindre infailliblement un but purement intellectuel. Oui. L'humanité, il faut l'avouer, antérieurement à l'absolue découverte du baron Botton, avait même déjà trouvé quelque chose d'approchant, mais c'était un moyen terme à l'état rudimentaire et dérisoire. C'était l'enfance de l'art, le balbutiement. Et ce moyen terme était ce qu'on appelle encore de nos jours, en termes de théâtre, la claque. En effet, la claque est une machine faite avec de l'humanité et par conséquent perfectible. Toute gloire à sa claque, c'est-à-dire son ombre, son côté de supercherie, de mécanisme et de néant, car le néant est à l'origine de toute chose, que l'on pourrait nommer en général l'entre-gens, l'intrigue, le savoir-faire, la réclame. La critique théâtrale n'en est qu'une subdivision. Et lorsque l'illustre chef de service du théâtre de la Porte-Saint-Martin, le jour d'une première représentation, a dit à son directeur inquiet « Tant qu'il restera dans la salle un de ces gredins de payons, je ne répondrai rien. » Il a trouvé qu'il comprenait la confection de la gloire. Il a prononcé des paroles véritablement immortelles et sa phrase frappe comme un trait de lumière. Ô miracle ! C'est sur la claque. Oui, c'est sur elle, disons-nous, et pas sur autre chose, que Botton a puissamment abaissé son coup d'œil d'aigle. Ce véritable grand homme n'exclut rien. Il se sert de tout en dépassant le reste. Oui, le baron l'a régénéré, sinon innové, et il la fera enfin sanctionner pour nous couvrir de l'expression même des journaux. Qui donc, surtout parmi le gros du public, a pénétré les mystères, les ressources infinies, les abîmes d'ingéniosité de ce protée, de cet hydre, de ce briasse qu'on appelle la graque? Il est des personnes qui, avec le sourire de suffisance, pourront trouver à propos de nous objecter que, premièrement, la claque dégoûte les auteurs, deuxièmement, qu'elle ennuie le public, et troisièmement, qu'elle tombe en désuétude. Nous allons simplement leur prouver, à l'instant même, que si elles nous disent des choses pareilles, elles auront perdu l'occasion de se taire, qu'elles retrouveront peut-être jamais. Premièrement, un auteur dégoûté de la claque. D'abord, où il est cet homme-là? comme si chaque auteur, le jour d'une première, ne renonçait pas encore à la claque avec ses amis, autant qu'il le peut, en leur recommandant de soigner le succès. Ce à quoi les amis, tout fiers de cette complicité, mon Dieu bien innocente, répondent invariablement en clignant de l'œil et en montrant leurs bonnes grosses mains franches. Oh, comptez sur les battoirs. Deuxièmement, le public, ennuyé de la crie, claque. Oui, et de bien d'autres choses, qu'il supporte cependant. N'est-il pas destiné au perpétuel ennui de tout de lui-même? La preuve en est sa présence même au théâtre. Il n'est là que pour tâcher de se distraire, le malheureux, et pour essayer de se fuir lui-même. De sorte que dire cela, c'est au fond ne rien dire. Qu'est-ce que cela fait, la claque, que le public soit ennuyé? Il la supporte, la stipendie. Il se persuade qu'il est nécessaire, au moins pour les comédiens. Bon, passons. Troisièmement, la claque est tombée en désuétude. Simple question. Quand donc fut-elle jamais plus florissante? Faut-il forcer le rire? Au passage, qui veulent être spirituels et qui vont faire long feu, on entend tout à coup, dans la salle, le petit susurrement d'un rire étouffé et contenu, comme celui qui contracte le diaphragme surchargé par l'ivresse d'une impression comme mic irrésistible. Et ce petit bruit suffit parfois pour faire partir toute une salle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme on ne veut pas avoir ri pour rien, ni s'être laissé entraîner par personne, on avoue que la pièce est drôle et qu'on s'y est bien amusé, ce qui est tout. Le monsieur qui fait ce bruit coûte à peine un Napoléon. La claque. S'agit-il de pousser jusqu'à l'ovation quelques murmures approbatifs échappés par malheur au public? Rome est aujourd'hui là. Il y a le waouh waouh. Le waouh waouh, c'est le bravo poussé par paroxysme. C'est un abréviatif arraché par l'enthousiasme. Alors que transporté, ravi, le larynx oppressé, on ne peut plus prononcer du mot italien bravo que le guttural waouh waouh. Cela commence tout doucement par le mot bravo lui-même, articulé vaguement par deux ou trois voix, et puis cela s'enfle, devient bravo, puis grossit de tout le public, et trépignant et enlevé jusqu'au cri définitif de bravo, wow, wow, ce qui est presque l'aboiement. C'est là l'ovation. Coût 3 pièces d'or de valeur de 20 francs chacune. Encore la claque. Et s'agit-il dans une partie désespérée de détourner le taureau et de distraire sa colère? Le monsieur au bill bouquet se présente. Voici ce qu'il est. Au milieu d'une tirade fastidieuse que récite la jeune première, épouvantée du silence de mort qui règne dans la salle, un monsieur, parfaitement bien mis, le carreau de vitre à l'oreille, se penche en avant d'une loge, jette un bouquet sur la scène, puis, les deux mains étendues et longues, applaudit avec bruit et lenteur, sans se préoccuper du silence général ni de la tirade qui l'interrompt. Cette manœuvre a pour but de compromettre l'honneur de la comédienne, de faire sourire le public, toujours avide, légillard, grillard. Et le public, en effet, cligne de l'œil. on indique la chose à son voisin, en se prétendant au courant. On regarde alternativement le monsieur et l'actrice. On jouit de l'embarras de la jeune femme. Ensuite, la foule se retire un peu consolée par l'incident de la stupidité de la pièce. Et l'on accourt de rechef au théâtre dans l'espoir d'une confirmation de l'événement. Somme toute, demi-succès pour l'auteur, coût quelques 30 francs, non compris les fleurs, toujours la claque. Et finirons-nous jamais si nous voulions examiner toutes les ressources d'une claque bien organisée? Mentionnons toutefois pour les pièces dites corsées et les drames à émotion, les cris de femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes communicatives, les petits rires brusques et aussitôt contenus du spectateur qui comprend après les autres un écu de 6 livres, les grincements de tabatière aux généreuses profondeurs de lesquelles l'homme ému a recours, les hurlements, suffocations, bis, rappel, larmes silencieuses, menaces, rappel, avec hurlements en sus, marques d'approbation, opinions émises, couronnes, principes, convictions, tendances morales, attaques d'épilepsie, accouchements, sonnets, suicides, bruits de discussion, l'art pour l'art, la formelée, etc., etc. Arrêtons-nous. Le spectateur finira par s'imaginer qu'il fait lui-même partie de la claque, à son insu. Bon, ce qui est d'ailleurs l'absolue et incontestable vérité, mais il est bon de laisser un doute en son esprit à cet égard. Le dernier mot de l'art est proféré lorsque la claque en personne crie « Ah ben la claque !» puis finit par avoir l'air d'être entraînée elle-même et applaudit à la fin de la pièce comme si elle était le public réel et comme si les rôles étaient intervertis. C'est elle alors qui tempère les exaltations trop fougueuses et les restrictions. Statue vivante, assise en pleine lumière, au milieu du public, la claque est la constatation officielle, le symbole avoué de l'incapacité où se trouve la foule de discerner par elle-même la valeur de ce qu'elle entend. Bref, la claque est à la gloire dramatique ce que les pleureuses étaient à la douleur. Maintenant, c'est le cas de s'écrier avec le magicien des mille et une nuits. Qui veut changer les vieilles lampes pour des laves? Il s'agissait de trouver une machine qui fût à la claque ce que le chemin de fer est au coche et préserva la gloire dramatique de ses conditions de versatilité et d'habit, dont elle reste relève quelquefois. Il s'agissait d'abord de remplacer les côtés imparfaits, éventuels, hasardeux de la claque simplement humaine et de les perfectionner par l'absolue certitude du pur mécanisme. Ensuite, et c'était ici la grosse difficulté, de découvrir, en l'y réveillant à coup sûr, dans l'âme publique, le sentiment grâce auquel les manifestations de gloire brute de la machine se trouvaient épousées, sanctionnées et ratifiées comme moralement valables par l'esprit même de la majorité. Là seulement était le moyen terme. Encore un coup, cela semblait impossible. Le baron Bottom n'a point reculé devant ce mot, qui devrait être une bonne fois rayé du dictionnaire, et désormais, avec sa machine, l'auteur n'eut pas plus de mémoire qu'un lino. L'auteur fut-il hébétu en personne, et le spectateur fut-il sourd comme un pot, ce sera un véritable triomphe. À proprement parler, la machine, c'est la salle elle-même. Elle y est adaptée. Elle en fait partie constitutive. Elle y est répandue de telle sorte que toute œuvre, dramatique ou non, devient en y entrant un chef-d'œuvre. L'économie d'une salle telle qu'on la conçoit, d'après celle des théâtres actuels, est sensiblement modifiée. Le grand ingénieur traite à forfait, se charge de toutes les avances de transformation et défalque sur les droits des auteurs à 10% de rabais sur la claque ordinaire. Il y a beaucoup de brevets pris des sociétés en commandite établies à New York, à Barcelone et à Vienne. Le coût de la machine pour son adaptation à une salle moyenne n'est pas très dispendieux. Il n'y a que les premiers frais d'assez importants, et l'entretien de l'appareil bien conditionné n'étant pas onéreux. Les détails mécaniques, les moyens employés sont simples comme ce qui est vraiment beau. C'est la naïveté du génie. On croit rêver. On n'ose pas comprendre. On a mort le bout de son index en baissant les yeux avec coquetterie. Ainsi, les petits amours dorés et roses des balcons, les cariatides des avant-scènes, etc., sont multipliés et sculptés presque partout. C'est à leur bouche, précisément orifice de photographe, que sont placés les petits trous à soufflet qui, mu par électricité, profère soit les waouh waouh, soit les cris « Ah, la porte, la cabale !» les rires, les sanglots, les vices, les discussions, principes, bruits de tabarnak, etc. et tous les bruits publics perfectionnés. Oh, les principes surtout des baumes sont garantis. Ici, la machine se complique insensiblement et la conception devient de plus en plus profonde. Les tuyaux de gaz à lumière sont alternés avec d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et d'acryphores. Les balcons sont machinés à l'intérieur. Ils renferment d'invisibles points en métal destiné à réveiller au besoin le public, et lentilles de bouquets et de couronnes. Brusquement, il jonche la scène de myrte et de laurier, avec le nom de l'auteur écrit en lettres d'or. Et sous chacun des sièges, fauteuils d'orchestre, de balcon, désormais adhérents au parquet, est replié, pour ainsi dire postérieurement, une paire de mains très belles en bois de chêne construite d'après les plans de Duesbachmar, sculptées à n'importe pièce et recouvertes de gants en double cuir de veau de paille pour compléter l'illusion. Il serait superflu d'en indiquer la fonction ici. Ces mains sont scrupuleusement modelées sur le fac-similé des patron des plus célèbres, afin que la qualité des applaudissements en soit meilleure. Ainsi, les mains de Napoléon, de Marie-Louise, de Madame de Sévigné, de Shakespeare, de Latera et de Goethe, de Chaplin et du Dante, décalquées sur les dessins des premiers ouvrages de chiromancy, ont été choisis de préférence comme étalons et types généraux à confier au tourneur du bout de canne, nerf de bœuf et bois de fer, des talons en caoutchouc bouilli, ferrés de forts clous, sont dissimulés dans les pieds mêmes de chaque siège. Émus par des ressorts à boudin, ils sont destinés à frapper alternativement et rapidement le plancher, dont les ovations rappellent les trépignements. À la moindre interruption du courant des électro-aimants, la secousse mettra tout en branle avec un ensemble tel que jamais de mémoire de claque on n'aura rien entendu de pareil. Cela croulera d'applaudissements. Et la machine est si puissante qu'au besoin, elle pourrait faire crouler littéralement la salle elle-même. L'auteur serait enseveli dans son triomphe, pareil au jeune capital de Bourg après l'assassinat, l'assaut de Ravenne, et que pleurèrent toutes les femmes. C'est un tonnerre, une salve, une apothéose d'acclamations, de cris, de bravis, d'opinions, de waouh waouh, de bruits de tout genre, même inquiétant, de spasmes, de convictions, de trépidations, d'idées, de gloire, éclatant de tous les côtés à la fois, aux passages les plus fastidieux ou les plus beaux de la pièce, sans distinction. Il n'y a plus d'aléa possible. Et il se passe alors ici le phénomène magnétique indéniable qui sanctionne ce tapage et lui donne la valeur absolue. Ce phénomène est justification de la machine à gloire qui, sans lui, serait presque une mystification. Le voici. C'est le grand point, le trait hors ligne, l'éclair éblouissant et génial de l'invention de Brotom. Remémorons-nous avant tout, pour bien saisir l'idée de ce génie, que les particuliers n'aiment pas la froide opinion fondée, l'opinion publique. Le propre de chacune de leurs âmes est d'être convaincu quand même de cet axiome dès le berceau. Cet homme réussit donc en dépit des sots et des envieux, c'est un esprit glorieux et capable. Imitons-le, si nous le pouvons, et soyons de son côté, à tout hasard, ne fût-ce que pour n'avoir pas l'air d'un imbécile. Voilà le raisonnement caché, n'est-il pas vrai, dans l'atmosphère même de la salle. Maintenant, si la claque enfantine dont nous jouissons suffit aujourd'hui pour amener les résultats d'entraînement que nous avons signalés, que sera-ce avec la machine, étant donné ce sentiment général? Le public, les subissant déjà, tout en se sachant fort bien, la dupe de cette machine humaine, la claque, les éprouvera ici d'autant mieux qu'ils lui seront inspirés cette fois par une vraie machine. L'esprit du siècle, n'oublions pas, est aux machines. Le spectateur, donc, si froid qu'il puisse être en entendant ce qui se passe autour de lui, se laisse bien facilement enlever par l'enthousiasme général. C'est la force des choses. Et bientôt le voici qui applaudit à tout rompre et de confiance. Il se sent, comme toujours, de l'avis de la majorité. Et il ferait alors plus de bruit que la machine elle-même, s'il pouvait, de crainte de se faire remarquer. De sorte, et voilà la solution du problème, un moyen physique réalisant un but intellectuel, de sorte que le succès devient une réalité, que la gloire passe véritablement dans la salle, et que ce côté illusoire de l'appareil boton disparaît en se fusionnant positivement dans le resplendissement du vrai. Si la pièce était d'un simple agiota ou de quelque cuistre tellement baveux que l'action mérite même d'une seule scène en fut impossible, pour parer à tout aléa, les applaudissements ne cesseraient pas du lever à la chute du rideau. Pas de résistance possible aux besoins des auteurs. Oh non, non, non! Non, non! Pas de résistance possible, toujours à revenir là-haut, là-haut. Pas de résistance possible. Au besoin, des fauteuils seraient ménagés pour les poètes avérés et convaincus du génie, pour les récalcitrants en un mot, et la cabale. La pile, en envoyant son étincelle dans l'état de fauteuil suspect, ferait applaudir d'effort de force leurs habitants, et l'on dirait « Oh, il paraît que c'est bien beau, puisque eux-mêmes sont obligés d'applaudir. » Inutile d'ajouter que si cela faisait jamais, grâce à l'intempestive invention, faut tout prévoir de quelques chefs d'État malaisés, représenter aussi leurs ouvrages sans coupure collaborateurs éclairés ni immixtion directoriale, la machine, par une rétroversion due à l'inépuisable et vraiment providentielle invective de Bottom, serait venger les honnêtes gens, c'est-à-dire qu'au lieu de courir rire de gloire, cette fois, elle hurrait, brairait, sifflerait, ruerait, coasserait, glapirait et conspuerait tellement la pièce qu'il serait impossible d'en distinguer un maître mot. Jamais, depuis la fameuse soirée du Tannhauser à l'Opéra de Paris, on aurait entendu chose pareille. De cette leçon, la bonne foi des personnes bien, et surtout de la bourgeoisie, ne serait pas surprise, comme il arrive, hélas, trop souvent. L'éveil serait donné tout de suite, comme jadis au Capitole lors de l'attaque des Gaulois. 20 androïdes sortis des ateliers d'Edison, à figure digne, à sourire discret entendu, la brochette choisie à la boutonnière, sont d'attache à la machine, et de cas d'absence ou d'indisposition de leur modèle, on le distribuerait dans les loges avec des attitudes de mépris profond qui donneraient de loin le ton aux spectateurs. Et si par extraordinaire, ces derniers essayaient de se rebeller et de voir entendre, les automates crieraient « Au feu !» ce qui enlèverait la situation dans un meurtrier tohu-bohu d'étonnement et de clameur réelle. La pile ne s'en relèverait pas. Quant à la claque critique, il n'y a pas à s'en préoccuper. Lorsque l'œuvre dramatique sera écrite par des gens recommandables, par des personnes sérieuses et influentes, par des notabilités conséquentes et de poids, la critique, à part quelques purs associables, et dont les voix perdues dans le tumulte référant quand renoncer le vacarme, se trouverait toute conquise. Elle rivaliserait d'énergie avec l'appareil boton. D'ailleurs, les artistes critiques, confectionnés à l'avance, sont aussi une dépendance de la machine. La rédaction en est simplifiée par triage de tous les vieux clichés, rhabillés, revenus à neuf, qui sont relancés par des employés bretons, à l'instar du moulin à prière, des Chinois, des précurseurs en toutes choses du progrès. L'appareil breton, réduit à peu près de la même manière, la besogne de la critique. Il est parvenu ainsi bien des sueurs, bien des fautes de grammaire élémentaire, bien des coq à l'âne, bien des phrases vides qu'emporte le vent. Les feuilletonistes amateurs du doux farniente pourront traiter avec le baron à son arrivée. Le secret le plus invisible est assuré en cas de puéril amour-propre. Il y a prix fixe, marqué en chiffres, comme en tête des articles. Et s'étend par mot le plus de 3 caractères. Et quand l'article est glorieux pour le signataire, la gloire se paye à part, comme régularité de ligne, comme œil, comme logique stricte et comme mécanique filiation d'idées, ces articles ont, sur les articles faits à la main, la même et incontestable supériorité que, par exemple, les ouvrages d'une machine à coudre ou sur ceux de l'ancienne aiguille. Il n'y a pas de comparaison. Que sont les forces d'un homme aujourd'hui devant celles d'une machine? C'est surtout après la chute du drame d'un grand poète que les bienfaisants effets de ces articles bottom seraient appréciables. Là serait, comme on dit, le coup de grâce. Comme choix et lessivage les plus décrépites, tortueuses, nauséabondes, calomnieuses et baveuses, platitudes gloussées au sortir de l'égout natal, ces articles ne laisseraient vraiment plus rien à désirer au public. Ils sont tout prêts, ils donnent l'illusion complète. On croirait d'une part lire les articles humains sur les grands hommes vivants, et d'autre part, quel fini dans le venimeux, quelle quintessence d'abjection. Leur apparition sera certainement l'un des grands succès de ce siècle. Le baron en a soumis quelques spécimens à plusieurs de nos plus spirituels critiques. Ils en soupiraient et en laissaient tomber la plume d'admiration. Cela exsude à chaque virgule cette impression de quiétude qui émane par exemple de ce mot délicieux que, tout en s'éventant négligemment de son mouchoir de dentelle, le marquis de D, directeur de la Gazette du Roi, disait à Louis XIV « Sire, si l'on envoyait un bouillon au grand Corneille qui se meurt, la chambre générale du grand clavier de la machine est installée sous l'excavation appelée au théâtre le trou du souffleur. Là se tient le préposé, lequel doit être un homme sûr d'une honorabilité éprouvée, ayant l'extérieur digne d'un gardien de passage, par exemple, et il a sous la main les interrupteurs et les commutateurs électriques, les régulateurs, les éprouvettes, les clés des tuyaux, des gaz proto et biotiques d'azote, un effluve harmoniaco et autres, les boutons de ressort, des leviers, des biel et des moufles. Le manomètre marque tant de pression, tant de kilogrammètres d'immortalité. Le compteur additionne et l'auteur dramatique paye sa facture. que lui présente quelques jeunes beautés en grand costume de renommée et entourées d'une gloire de trompettes. Celle-ci remet alors à l'auteur, en souriant au nom de la postérité et aux lueurs d'un feu de Bengale, olive, couleur de l'espérance, lui remet, disons-nous, à titre d'offrande, un buste ressemblant, garanti, nimbé et lauré, le tout en béton aggloméré. Tout cela peut se faire à l'avance, avant la représentation. Si l'auteur avait même à ce que sa gloire tenait à ce que sa gloire fût non seulement présente et future, mais fût même passée, le baron a tout prévu. La machine peut obtenir des résultats rétroactifs. En effet, des conduits de gaz hilarants, habilement distribués dans le cimetière de premier ordre, doivent chaque soir faire sourire de force les aïeux dans leur tombeau. Pour ce qui est du côté pratique et immédiat de l'invention, les devis ont été scrupuleusement dressés. Le prix de transformation du Grand Théâtre à New York en salle sérieuse n'excède pas 15 000 $. Celui de La Haye, le baron vendrait moyennant 16 000 krones. Moscou et Saint-Pétersbourg seraient aptes moyennant 40 000 roubles environ. Les prix pour les théâtres de Paris ne sont pas encore fixés. Potom voulait être sûr de ces lieux pour bien en rendre compte. En somme, on peut affirmer désormais que l'énigme de la gloire dramatique moderne, telle que la conçoivent les gens de simple bon sens, vient d'être résolue. Elle est maintenant à leur portée. Ce sphinx a trouvé son Œdipe.